Alors bonjour frères et sœurs, je vous invite à la prière. Nous allons remettre les enfants à la classe de la Bible et ce temps de prédication à la grâce de notre Dieu. Nous te remercions notre Dieu pour ce premier moment que nous avons pu avoir ce matin, où ensemble nous avons pu te louer, nous avons pu t'adorer. Oui, parce que tu es un grand Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Celui qui nous a aimés, celui qui a manifesté cet amour envers nous en envoyant son Fils, celui qui nous a sauvés, qui a fait de nous ses enfants. Nous te bénissons parce que nous pouvons nous approcher de toi avec assurance et nous te rendons grâce, notre Dieu, parce que tu es sous ton trône de grâce et tu veux faire miséricorde, tu veux encore faire grâce. Nous te demandons de nous conduire durant ces instants. Nous te remercions pour ta parole que tu nous as laissée, ta parole qui est la vérité. Fortifie-nous par elle. Et nous te remettons les enfants aussi qui vont recevoir ta parole à la classe de la Bible. Que tu les bénisses, que tu disposes leur cœur. Que tu bénisses la monitrice aussi qui va leur enseigner. Que Seigneur Dieu, tout soit fait pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, les enfants peuvent monter. La monitrice aussi. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le premier livre donc de la Bible, hein, Genèse chapitre 12. La semaine dernière, j'ai commencé une petite série de messages sur la confiance en Dieu. Et nous nous appuyons sur le témoignage d'Abraham. Abraham, cet homme à qui Dieu a annoncé une bonne nouvelle, lui disant que toutes les nations de la terre seront bénies en lui, alors qu'il était à Ur en Chaldée. Donc le Seigneur lui a demandé de partir. Il est parti avec sa famille, et il s'est arrêté à Charan, plus au nord, et il a fallu que son père, Térak, décède plusieurs années après, et le Seigneur renouvelle cet appel, et Abraham part et met sa foi en Dieu, s'appuie sur les promesses de Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et nous disions la fois dernière que c'est suite donc à cette bonne nouvelle qu'Abraham a reçue, donc il est parti, qu'il a mis sa foi en Dieu, et que nous aussi, le Seigneur nous a annoncé une bonne nouvelle en la personne de Jésus-Christ qu'il a envoyé, et que tous ceux qui mettent leur foi en lui sont sauvés, trouvent le repos, tout comme Dieu il avait pour plan que Abraham puisse arrivé dans ce pays de Canaan, et il lui dit que ça sera pas lui, mais ça sera ses descendants qui vont prendre possession de ce pays. Mais il dit, ce pays, je te le donne. Et Abraham a mis sa confiance en Dieu. Donc le Seigneur nous a annoncé aussi cette bonne nouvelle, nous l'avons reçue. Et encore aujourd'hui, le Seigneur l'annonce et vous dit qu'il vous aime et qu'il veut que vous soyez sauvés, vous qui n'avez pas encore mis votre foi en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à Marthe, la sœur de Lazare, dans Jean chapitre 11, Lazare qui donc venait de mourir, il lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et il lui dit, crois-tu cela? Et elle répond, oui Seigneur, je crois. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Et quel témoignage! Et je crois que le Seigneur attend de chacun qu'il puisse dire cela. Oui, je crois. Oui, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour une femme dont le frère vient de mourir. De savoir que son frère aussi, qui avait mis sa foi en Jésus-Christ, et qu'il a aussi la vie, même s'il passe par la mort. Et le Seigneur avait en vue de manifester sa toute-puissance en ressuscitant cet homme Lazare qui venait de mourir. Et c'était aussi une bonne nouvelle pour Martha. En croyant à cette bonne nouvelle, nous entrons dans le repos de Dieu. Repos que nous trouvons en Jésus-Christ. Et grâce à cela, nous avons, la Bible nous dit, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est ce que l'apôtre dit dans Romains chapitre 5, dans les deux premiers versets. Et si c'est par la foi en Jésus que nous sommes déclarés justes par Dieu, ce n'est pas tout. Le Seigneur attend de chacun de nous qui avons mis notre foi en lui que nous vivions aussi par la foi. Le juste vivra par la foi. C'est une chose de mettre sa foi en Jésus-Christ pour être déclaré juste, et c'est encore une autre chose que le Seigneur nous demande, c'est de vivre par la foi. Et Abraham est appelé le père de la foi, c'est justement parce que non seulement il a mis sa foi en la parole de Dieu, mais il a vécu aussi par la foi, et c'est ce que nous allons voir petit à petit. Alors, quels sont les différents éléments qui ont caractérisé la foi d'Abraham? Et j'aimerais que nous lisions les neuf premiers versets de ce texte de Genèse chapitre 12, et voir ensemble quelques éléments qui caractérisent donc la foi de cet homme. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches, en s'avançant vers le midi. Voyons donc les caractéristiques de la foi et ces différents éléments qui ont caractérisé la foi d'Abraham. Et la première des choses que j'aimerais souligner, c'est que vivre par la foi implique la reconnaissance de l'existence du Dieu souverain. Le verset 1 nous dit « L'Éternel dit à Abraham. » L'Éternel. Abraham connaissait plusieurs dieux qui n'étaient pas des dieux mais des idoles créées par l'homme et qui faisaient office de Dieu pour lui. Dans Josué chapitre 24, verset 2, Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères Térak, père d'Abraham et père de Nakhor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. » Donc, Abraham était un homme idolâtre, comme son père, les gens de sa famille. Et c'est Dieu, l'Éternel, qui est venu le chercher, qui est venu le chercher là où il était, à Ur en Chaldée, et qui lui dit, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Dieu appelle cet homme idolâtre, et Abraham va répondre à l'appel de Dieu. Il va reconnaître que les dieux qu'il servait n'étaient pas des dieux. Mais il croit qu'il existait un seul Dieu qui n'a pas été fait de main d'homme. Il a reconnu que ce Dieu qui n'a pas été fait de main d'homme, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il a reconnu que ce Dieu-là qui lui a parlé, c'est celui qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et dans Romains chapitre 4, verset 17, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Abraham était un idolâtre dont le cœur était à la recherche du vrai Dieu. Et peut-être comme les Athéniens, du temps de l'apôtre Paul, il avait un objet de dévotion, un autel destiné à un dieu inconnu. Les Athéniens, ils avaient ça, et c'est l'apôtre Paul va s'appuyer sur cet élément pour leur parler de Jésus-Christ. Et lorsque le Seigneur, l'Éternel, se révèle à lui, il reconnaît que voilà, c'était lui le Dieu que son cœur recherchait. Il avait toutes ces idoles-là et il ne trouvait pas de satisfaction, il ne trouvait pas la paix, même en s'adressant à ces idoles. Mais lorsque l'Éternel intervient et parle à cet homme, il reconnaît que voilà, c'était le Dieu, le vrai Dieu qu'il recherchait. Et lisons ce passage où l'apôtre Paul s'adresse aux Athéniens dans Actes chapitre 17. Alors, Actes chapitre 17, nous lisons les versets 22 à 34. Donc, Paul, il est à Athènes, et là, il dit au verset 22 qu'il est debout au milieu de l'aréopage. Il dit, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis l'Aéropagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Vous voyez, l'apôtre Paul s'est adressé à des hommes, des personnes qui adoraient toutes sortes de dieux, mais ils ne connaissaient pas le seul vrai Dieu. Il y avait ce Dieu inconnu. Et il a dit, voilà, c'est lui que je vous annonce. Donc, en mettant sa foi en l'Éternel, Abraham a cru aussi que la divinité n'était pas le fruit d'un homme, mais que le vrai Dieu est le créateur de toutes choses et que c'est lui seul qui doit être adoré. Et dans Jérémie chapitre 10, Ésaïe chapitre 40 ou chapitre 44, l'Éternel rappelle, mais à qui me comparerez-vous? Quand il fait la comparaison avec les idoles, les gens qui prennent du bois, qui coupent un arbre et puis qui se créent les idoles. Et Jérémie qui dit, nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Nul n'est semblable à toi. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due. Dans Jérémie chapitre 10, verset 6, il dit, mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. Et donc, c'est ce Dieu-là, le seul vrai Dieu qui sauve. Et c'est lui qui a appelé Abraham, et Abraham a reconnu en lui le seul vrai Dieu. Donc la foi commence par la reconnaissance de la souveraineté de Dieu, de la réalité, de l'existence d'un Dieu souverain, l'Éternel. L'Éternel a déclaré Abraham juste parce qu'il l'a reconnu, en tant que Dieu créateur, un Dieu vivant, qui est agissant, qui veut être aussi en relation avec sa créature. L'Éternel est un Dieu qui se révèle. Et vivre par la foi implique d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Dans ces trois premiers versets, on voit que c'est Dieu qui parle. L'Éternel dit à Abraham et il lui fait des promesses, il lui dit des choses. L'Éternel s'adresse personnellement à Abraham. Personnellement. Et il veut s'adresser et il s'adresse encore aujourd'hui personnellement aux uns et aux autres. Mais il faut l'écouter. Dieu s'est adressé à Abraham donc, et lui a demandé de partir, de quitter sa famille. Il lui a demandé d'aller dans le pays qu'il va lui montrer. Et Abraham va obéir. Dieu s'est adressé à Adam dès le commencement. Il lui a donné ses instructions pour lui dire, voilà, je te place dans le jardin, mais cet arbre-là, tu ne vas pas y toucher. Il s'est adressé au couple aussi, à Adam et à Ève. Il lui dit, voilà, multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. Dieu s'est adressé à chacun. Il s'adresse au couple, il peut s'adresser à plusieurs personnes en même temps. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'Adam et Ève ont désobéi, il y a eu cette séparation qui est venue briser cette communion, cette relation qu'il y avait entre Dieu et l'homme. Mais malgré cela, malgré ce péché qui était là, c'est Dieu encore qui est venu vers l'homme pour dire, mais où es-tu? C'est encore Dieu qui est venu vers l'homme pour lui dire, Adam, où es-tu? Et c'est à cause du péché et de ses conséquences qu'il a envoyé le déluge parce que il y avait tellement de méchanceté sur la terre. Mais là encore, il a parlé à Noé, il lui a dit de lui construire cette arche et pour pouvoir sauver sa famille et les animaux que Dieu va lui dire de mettre dans cette arche. Et pour rétablir la relation qui a été brisée entre Dieu et l'homme à cause du péché, c'est encore Dieu qui intervient, qui parle. Il parle à Abraham. Et pour dire à Abraham, je ferai de toi une grande nation, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et cette promesse qu'il adresse à Abraham, l'apôtre Paul et les autres disent, voilà, c'est en Jésus-Christ que s'accomplit cette promesse. Et ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ retrouvent cette communion avec Dieu. Et dans Éphésiens chapitre 2, la suite du texte que nous avons lu ce matin, où l'apôtre Paul souligne cette séparation qu'il y avait entre les peuples et que Dieu, par sa puissance, pour ceux qui mettent leur foi en lui, il permet que nous puissions nous retrouver et rétablir la communion non seulement avec lui, mais aussi entre les peuples. Et c'est ça l'Église. Quelle que soit notre culture, quelles que soient nos origines, Dieu fait de nous un seul peuple parce que nous croyons en le même Sauveur et en le même Seigneur. Donc c'est encore Dieu qui intervient. Et Dieu met en action son plan. Et l'appel d'Abraham, c'est l'accomplissement, c'est le lancement, on va dire, du plan merveilleux de salut qu'il a pour l'humanité. Et Abraham a répondu à cet appel. Abraham a écouté la parole de Dieu et il a obéi. Alors, est-ce que Dieu, est-ce qu'il parle encore aujourd'hui, frères et sœurs? Oui! Hein? Oui! Dieu parle encore aujourd'hui. Parfois, nous lisons la Bible et puis on lit, Dieu dit à Abraham, Dieu dit à Noé, Dieu dit... Est-ce que Dieu ne dit pas à Tony? Est-ce que Dieu ne dit pas à Stéphanie? Le Seigneur, il a parlé par les prophètes. Et la Bible nous dit que définitivement, il a parlé par le Fils. Le Fils qui est la parole de Dieu dont parle Jean, qui est la parole qui a été faite chair, qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Le Seigneur parle par le Fils. Et lorsque nous nous tournons vers Jésus-Christ, pouvons être aussi à l'écoute de la parole de Dieu. Le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et lorsque nous entendons cette parole, lorsque Dieu parle à notre cœur, lorsque Dieu parle à votre cœur individuellement, c'est à vous de dire, oui Seigneur, j'ai entendu et je suis prêt à obéir. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie. Donc c'est lui que je vais suivre. Dieu a parlé à Abraham et il parle à chacun de vous. Est-ce que vous allez écouter? Mais pas seulement vous borner à écouter, comme dit Jacques, mais obéir à ce qu'il vous dit. Dieu, vous savez, il s'est adressé au Seigneur Jésus-Christ lors de son baptême, et il a parlé aussi, la foule a entendu, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Luc et Marc font cette nuance, ils disent, Dieu dit, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Lorsque Jésus-Christ, il sera transfiguré devant ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, ces trois-là vont entendre cette voix, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et le Seigneur Jésus, c'est celui qui parle encore à nos cœurs. C'est lui qui nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela? Est-ce que on a entendu, mais est-ce qu'on dit oui, Seigneur, je le crois? Et tout comme Abraham a entendu et il a dit oui, je crois et je fais. Paul, alors qu'il était sur le chemin de Damas, là encore, Jésus-Christ est intervenu dans sa vie et lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a entendu. Il a répondu, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. C'est le Seigneur Jésus qui a parlé aussi à Ananias, alors qu'Ananias disait, mais lui, il veut tuer tes serviteurs. Non, non, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Le Seigneur a parlé à Ananias, et Ananias est parti, il est allé, il a vu Saul, il a dit, Saul, mon frère, recouvre la vue, et Saul a été baptisé. Etc., etc. C'est lui qui a dit aux anciens dans l'église d'Antioche, mettez à part moi, Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obéi, ils ont écouté, ils ont entendu, ils ont obéi. Ils ont laissé partir Saul et Barnabas pour faire ce voyage missionnaire et annoncer l'évangile parmi les païens. À chaque fois, Dieu parle aux uns et aux autres. Et à chaque fois, on voit que ce qu'il attend et ce qui a été souligné, c'est leur obéissance. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu souverain, l'Éternel qui a parlé. Et lorsque c'est l'Éternel qui parle, on obéit. Donc Dieu parle-t-il encore aujourd'hui? Oui, il le fait. Dieu parle au cœur lorsqu'il convainc l'homme de péché, de justice et de jugement. Lorsqu'il parle à votre cœur, il vous dit, oui, vous êtes un homme pécheur et que vous allez mourir, vous irez en enfer. Dieu parle lorsqu'il dit, mais la justice, c'est Jésus-Christ qui a pris sur lui vos péchés et que si vous croyez en lui, vous serez sauvés. Dieu parle à votre cœur, vous dit que si vous croyez en lui, vous aurez la vie éternelle. Dieu parle lorsqu'il, pour nous qui sommes sauvés, il nous dit... Voilà ce que j'attends de toi. Est-ce que tu vas le faire ou pas? Oui, le Seigneur parle encore à nos cœurs. Élihu, il dit dans Job, Dieu parle cependant. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et qu'est-ce qu'il dit après? Et l'on n'y prend point garde. Est-ce que nous sommes de ces auditeurs qui entendons les paroles de Dieu, qui, lorsque nous lisons sa parole, où le Seigneur met le doigt sur quelque chose dans notre vie qui n'est pas bien, qui n'est pas à sa gloire, il dit ça, il faudrait que tu le changes. Est-ce que nous entendons et nous disons oui, Seigneur, tu as raison? Ou est-ce que, comme le dit Élihu, on n'y prend point garde? Donc Dieu parle encore aujourd'hui, et là pour nous frères et sœurs, est-ce que nous l'écoutons? Et pour avoir la foi, il faut non seulement écouter sa parole, parce que c'est sa parole qui suscite la foi en nous. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et pour vivre par la foi, il faut encore être à l'écoute de la parole de Dieu. On est à l'écoute de la parole de Dieu pour avoir la foi, mais la vie chrétienne, c'est vivre aussi par la foi. Et vivre par la foi, comme je l'ai dit, ça implique aussi l'obéissance à la parole de Dieu. Dans les versets 4 à 5, c'est ce que nous voyons. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Il avait 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Donc il n'y a pas de réelle foi sans une obéissance à la parole de Dieu. Pour Dieu, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est ce que Samuel a répondu à Saül, qui avait désobéi à l'ordre que Dieu lui avait donné, lorsque Dieu lui a demandé d'exterminer les Amalécites. Et dans 1 Samuel, chapitre 15, versets 22 à 28, bon, je vais lire ce passage. Alors, 1 Samuel, chapitre 15, parce que j'aimerais souligner 2-3 points là-dessus. Alors, 1 Samuel, chapitre 15, le verset 22, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ?» Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et j'adorerai l'Éternel. » Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. » Vous savez, c'est riche d'enseignements ce passage. On écoute la parole de Dieu, mais s'il n'y a pas l'obéissance, je dirais que c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et ça, en tout cas, ça a été catastrophique pour Saül. Le texte dit que l'Éternel trouve-t-il du plaisir? Il dit il trouve du plaisir dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Lorsque nous entendons, nous lisons la parole de Dieu, frères et sœurs, et que nous avons à cœur d'obéir, voilà ce que ça produit chez Dieu, en Dieu. L'Éternel trouve du plaisir. Il est agréablement, il est joyeux, il voit, il dit. Il dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance, frères et sœurs, revient à observer la parole de Dieu. Et il dit que ça vaut mieux que la graisse des béliers. Il dit, le texte nous dit que ne pas obéir lorsque Dieu nous a parlé, lorsque Dieu a mis le doigt sur quelque chose. Il dit, ne pas obéir revient à rejeter la parole de Dieu. Est-ce que vous mesurez cela? Ne pas obéir revient à rejeter la parole de Dieu. Et là, dans le texte, on voit qu'il y a des conséquences à la désobéissance. Saül, il reconnaît, qu'est-ce qu'il dit? Il reconnaît qu'il a péché. Il dit, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai péché. Et il dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. C'est terrible, hein? Est-ce que nous mesurons aussi tout l'impact de ce que ça produit, la désobéissance à la parole de Dieu? Lorsque nous avons écouté, lorsque nous savons clairement, voilà, et notre conscience nous condamne, et que malgré cela, nous le faisons comme si de rien n'était, Dieu dit, tu as péché. Tu as péché. Et Abraham, lui, il a fait le choix de l'obéissance. Il avait foi en Dieu, et parce qu'il avait foi en Dieu, il a fait le choix d'obéir à Dieu. Et donc, lui, il est parti sans savoir où il allait. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, d'être agréable à Dieu. Impossible d'être agréable à Dieu. Abraham, lui, il voulait être agréable à son Dieu, et donc il a obéi à son commandement, il est parti. La dernière chose que j'aimerais souligner, c'est que vivre par la foi implique une marche persévérante avec Dieu. Dans les versets 6 à 9, on souligne cet aspect parce qu'il dit que Abraham parcourut le pays, il se transporta de là vers la montagne, il continua ses marches en s'avançant vers le midi. Constamment, on voit qu'Abraham, il est en mouvement. Et vivre par la foi, obéir à l'ordre de Dieu, demande de la persévérance parce que dans ces quelques lignes, on n'imagine pas tout ce la complexité de la vie qu'a eu Abraham alors qu'il a laissé, il a quitté une vie tranquille. Il était très riche, il avait une grande maison, etc. Il a quitté tout cela pour se retrouver dans un lieu désert, plein de montagnes, ou bien par moments il y avait des vallées fertiles, mais pas toujours. Il y avait les Cananéens dans le pays, et vous vous souvenez que lorsque Josué et Caleb sont allés dans le pays, ils ont vu qu'il y avait des géants, ils ont eu peur, ils ont dit à Moïse, retournons en Égypte. Donc, il y avait ces Cananéens dans le pays, et là, Abraham, face à toutes ces difficultés, toutes ces montagnes, toute cette situation où chaque fois il devait poser sa tente, il continuait à avancer, à persévérer, quelles que soient les difficultés qu'il rencontrait. Et c'est ça aussi, vivre par la foi. Avoir une marche, continuer à marcher, continuer à avancer avec son Dieu en persévérant. Il a continué parce qu'il savait qu'il avait le soutien, il avait l'encouragement que l'Éternel lui prodiguait, lui donnait. Et là, le Seigneur l'a encouragé quand il dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Quel encouragement! Parfois, on est là, c'est difficile, et il y a une parole de l'Éternel qui va venir nous encourager et qui va dire, ben, voilà, on va continuer. On ne va pas se laisser abattre. Et qu'est-ce qu'on voit là? C'est qu'Abraham, à chaque fois, il prend le temps de dresser un autel pour adorer son Dieu. Et ça, c'est très important. Malgré les difficultés qu'il peut rencontrer chaque jour, il prend le temps à chaque fois. Il dit, il dressa ses tentes et un Bethel, et il bâtit encore là, un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Ça, c'est l'attitude de l'homme qui a la foi, qui vit par la foi. Malgré les difficultés, il veut encore bâtir un autel pour offrir à l'Éternel ce sacrifice d'action de grâce. Il veut louer le Seigneur, il veut l'adorer. Frères et sœurs, lorsque ça va pas, qu'est-ce qu'on fait? L'une des premières choses qu'on fait, on ferme la Bible, on veut plus lire la Bible, on veut plus entendre, on veut plus venir à l'église, etc., etc. Mais Abraham, lui, c'est pas ce qu'il fait. Dans sa marche, face aux difficultés qu'il rencontre, et à chaque fois, il veut encore adresser à Dieu ses prières d'adoration, de louange. Il bâtit un autel à l'Éternel. Et là, il manifeste encore, à travers tout cela, sa foi en son Dieu. Par cet acte d'adoration, il montre que c'est en l'Éternel qu'il trouve sa force pour continuer sa marche. Donc, frères et sœurs, oui, imitons cet homme. On va voir par la suite qu'il n'a pas toujours tout bien fait. C'est parce qu'il n'était pas parfait. Mais il est un modèle pour nous. Et en cela, nous sommes encouragés à imiter la foi d'Abraham, qui, alors qu'il était un homme idolâtre, a reconnu en l'Éternel le seul vrai Dieu. Il a entendu l'appel de Dieu, il était à son écoute et il a obéi. Et il est parti. Et ce qui est merveilleux aussi de voir dans cela, c'est que lorsqu'on vit par la foi, on attire d'autres avec nous. Lot est parti avec Abraham. Et c'est un encouragement pour moi de dire, Tony, si tu marches par la foi, tu vas entraîner avec toi tes enfants. Tu vas entraîner avec toi un tel ou un tel. Un collègue va te connaître, il va vouloir connaître ton Dieu. Si tu marches par la foi, Lot vont partir avec toi. Ta femme, elle sera là avec toi, elle va te soutenir parce qu'elle sait que toi, tu marches par la foi. Les serviteurs qui étaient avec lui, ils sont tous partis avec lui. Vivre par la foi a cette puissance, frères et sœurs, de ce que, à travers nous, et c'est ce qu'on voit, les gens qui vivent par la foi, ils attirent à Dieu, pas à eux, mais à Dieu, d'autres pour susciter en eux aussi la foi. Donc que le Seigneur nous aide, qu'il nous encourage, qu'il vous bénisse, et que oui, que nous puissions ne pas rester insensible à l'appel de Dieu. N'oublions pas que nous servons l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous ne servons pas des idoles, nous servons celui pour qui tout existe, par qui tout existe, le Dieu Tout-Puissant. Et lorsque nous l'entendons qui nous parle, alors il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il nous a laissé sa parole et à travers sa parole, il nous parle. Mais à nous de prendre le temps de l'ouvrir, de l'écouter et de dire « Oui Seigneur, j'ai entendu ce que tu m'as dit ce matin. Je reconnais que dans ma vie, il y a ça à corriger. Et donc, je te prie de m'aider à avancer aussi avec toi.